La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
Esprit libre et le journaliste et écrivain Franz-Olivier Gisbert est avec nous. Bonjour Franz.
Bonjour.
Alors vous les remaniements, je vous
souhaite bonne année.
Bon, allez, bonne année.
Bonne année à tous nos auditeurs.
Bonne santé,
bonne année à tous.
Pour vos projets, vos livres, vos lectures, cher Franz. Alors les remaniements, je ne vais pas dire que vous adorez ça, mais vous en avez suivi quelques-uns. Remaniements ou
c'est
pas
un
d'ailleurs.
Un peu la barbe. Hein.
Bon, selon certains médias, c'est fait, ce sera un remaniement avant le week-end.
Oui, oui, on a lu ça. Puis Sébastien Lecornu fait la une du Figaro. Bon, alors bien voir, c'est que Macron, je pense que il se voit un peu comme une sorte de magicien, de prestidigitateur, et en tant que tel, bah, il aime bien me faire le coup du chapeau. Hein. Mais son numéro était un peu usé, c'est-à-dire que bon, on a bien vu, il y a eu le CNR, le Conseil National de la Refondation, hein, lancé en 2022, vous vous souvenez. Bon, il y a eu évidemment la nomination d'Elisabeth Borne. Il y a eu les journées de Saint-Denis qui sont terminées en pantalonnade, etc. Bon, donc aujourd'hui, effectivement, il pense à ça. Il peut changer jusqu'au dernier moment. C'est ouais. Ça aussi, c'est la spécificité de Macron. C'est-à-dire, on lance un truc, oh, puis non, allez, on va faire autre chose. Mais pour l'instant, c'est vrai, on va plutôt vers ça. Sébastien Lecornu, bon, il y a peut-être d'autres possibilités. Alors, on a entendu parler du retour de Julien de Normandie, qui était un macroniste
qui était notamment
historique,
ministre de l'Agriculture.
Voilà, pendant très longtemps. Et puis là, qui... paraît-il, pourrait aussi remplacer Bruno Le Maire. Est-ce que Bruno Le Maire, d'ailleurs, ne pourrait pas devenir Premier ministre? Ce serait pas une
ça
hypothèse
fait partie de ses projets
absurde.
Possibles.
Oui, oui. Est-ce que... Bah, j'entends dire aussi qu'il pourrait sortir, ce qui m'étonnerait, mais enfin bon, pourquoi pas. Et puis, il y a Gérald Darmanin aussi, on sait jamais, parce que bah, brusquement, il peut revenir. Enfin, c'est la dernière
elle est pas partie,
séquence a été compliquée, mais enfin, il est toujours là, il est toujours vivant. Et puis, on parle aussi d'une purge de la gauche des macronistes, qui avait ouais. menacé de partir, et ça, c'est sûr que ça a dû laisser des traces indélébiles.
On se demande aussi, faut-il changer de Premier ministre? Est-ce que ça a un intérêt?
Écoutez, oui, ça a un intérêt. Ça a un intérêt parce que aujourd'hui, Macron est en calminé. Il a encore 3 ans et demi à tirer comme ça. Il y a des européennes qui pourraient être absolument catastrophiques. Donc, il faut redonner du souffle. Je suis pas sûr qu'Elisabeth Borne soit la personne idoine pour redonner du souffle.
Mais quand on voit tous les noms que vous avez égrenés, est-ce que un seul d'entre eux peut redonner du souffle, sachant qu'il s'agit beaucoup de gens déjà présents dans le paysage?
Bah, la politique, c'est une dynamique. Et c'est vrai, il faut placer les bonnes personnes aux bons endroits. Apparemment, Macron n'a pas su trop le faire jusqu'à présent.
Oui.
Et ça, c'est vrai que un Premier ministre qui gouverne un peu, c'est-à-dire que s'il change, il faut aussi qu'il change un peu la donne. C'est-à-dire, il faut aussi qu'il mette à Matignon quelqu'un qui gouverne, un Premier ministre qui gouverne avec un président qui préside. Et là, on a un président qui préside, qui gouverne, et puis qui fait des tas d'autres choses, et puis qui fait surtout beaucoup de com' et qui est à la télé tous les soirs pratiquement pour nous raconter une histoire différente.
D'où la réflexion du journal L'Opinion ce matin. Emmanuel Macron a-t-il vraiment besoin d'un Premier ministre?
Bah, on pourrait dire non, mais s'il continue comme ça, il va au-devant d'énormes problèmes. Pour une raison très simple, c'est que il n'a pas admis qu'il avait perdu les élections législatives de 2022. Il les a perdues, et assez lourdement. Il a besoin donc d'ouvrir, il n'a pas ouvert son gouvernement.
Le problème, c'est que personne ne les a gagnés.
Oui, mais attendez, la politique, ça consiste quand vous avez, vous trouvez devant une situation, de vous adapter à cette situation, et notamment de faire, par exemple, de l'ouverture, ce que Mitterrand avait su faire en 1988, parce que lui aussi, il avait perdu les législatives après la présidentielle, vous vous souvenez. Bon, il avait ouvert aux centristes. Macron, lui, n'a pas ouvert. Il a pensé que ça pouvait passer comme ça, alors qu'il avait besoin de beaucoup plus de députés pour faire une majorité que Mitterrand lui-même. Il lui manquait vraiment beaucoup de députés. C'est une vingtaine, une trentaine, enfin, selon les calculs, ça peut changer, mais enfin... c'est beaucoup. Et donc, il faut qu'il repense, il faut qu'il réfléchisse. Enfin, c'est-à-dire le fait de faire comme si rien ne s'était passé, je vous assure, à la longue, ça va être compliqué. Et le 49-3, quand on sera à 49-3 par an, peut-être qu'on commencera à se poser des questions. Il y a même un problème
on
de démocratie à terme.
On peut pas en atteindre 50 par an, mais déjà, on en est à 22 depuis le début de...
Oui, ça fait beaucoup.
Elisabeth Borne à Matignon. Tout autre sujet dans l'actualité, l'Iran, avec cet attentat qui a fait 100 morts hier près de la tombe du général Soleimani, lui-même tué il y a 4 ans par un drone américain. Il était à ce moment-là la figure clé des gardiens de la révolution, cette milice politique à la main du guide suprême iranien. La question ce matin, c'est le commanditaire de l'attaque d'hier. On parle de l'opposition iranienne, on parle aussi de Daesh ou encore d'Israël.
Oui, enfin, Israël, je pense qu'ils ont assez travaillé puisqu'ils avaient, ils étaient en train de préparer au même moment l'attentat contre Saleh El-Raouri, le numéro 2 du Hamas à Beyrouth, et je pense qu'ils sont, il y a peu de chances qu'ils soient derrière. C'est l'Iran qui les accuse parce que ça l'arrange, mais en plus, la façon de procéder n'est pas, enfin, il y a pas de drone. Vous voyez très bien comment ça s'est passé. Enfin, ça paraît peu probable. Ensuite, l'État islamique, il n'est pas dans un si bon état que ça. Et en France, il y a une opposition très forte. Il y a une opposition très forte en Iran, et c'est ça, ça montre ça. C'est-à-dire que malgré la répression extrêmement sauvage et sanguinaire des Mollahs, du régime des Mollahs, faut le répéter, régime corrompu, abject, enfin très violent en fait, avec ses opposants. Et ben malgré ça, l'opposition est toujours forte. On l'a vu, vous savez, au moment après l'attaque du Hamas du 7 octobre.
Elle survit sous terre. Mais,
vous pas seulement sous terre, vous avez vu les matchs de football, les stades en Iran, il y a eu beaucoup d'images sur les réseaux sociaux où on conspuait la politique du gouvernement iranien contre Israël à ce moment-là. Donc, si vous voulez, et puis de toute façon, il y a peut-être aussi une forme de solidarité d'une partie du peuple iranien avec l'État hébreu. Vous savez pourquoi ? C'est l'histoire. C'est Cyrus le Grand, c'est tout ça. Il y a beaucoup de liens. Alors, ces liens, c'est vrai que le régime des Mollahs a essayé de casser cette relation, mais cette relation, elle reste. Il ne faut pas oublier que l'Iran est un peuple de culture. C'est une grande civilisation. Ça n'a pas l'air comme
très
ça. Quand on voit ces Mollahs tarés, barbus, c'est sûr que ça n'a pas l'air. Mais c'est la réalité.
Mais c'est une opposition qui est sans relais extérieur.
Oui, et qui est abandonnée. Qui est abandonné, c'est ça qui est pathétique. Vous savez très bien, vous avez bien vu le rapport, par exemple. Regardez ce qui se passe avec l'extrême gauche française, la gauche, soi-disant la gauche, mais enfin qui a été absorbée, mangée par l'extrême gauche. Hélas, regardez ce qui se passe. C'est-à-dire que cette extrême gauche ne dit rien. Rien, c'est un silence de mort sur ce qui se passe en Iran, avec les femmes par exemple. Bon, on a bien vu, elles ont été abandonnées, les femmes iraniennes, par tout le monde, y compris par ceux qui sont toujours les premiers à manifester. Moi, c'est à se demander d'ailleurs si il faudrait pas que les mollahs fussent juifs ou israéliens pour que l'extrême gauche française et les filles en tête se réveillent, hein, parce que c'est vrai que quand c'est les juifs ou les israéliens, alors là ils sont très concernés. Mais là, quand ce sont les mollahs, aucun problème, ils peuvent tuer, ils ont un permis de tuer. Et je veux dire, là, je dénonce l'extrême gauche, parce que c'est facile, mais c'est vrai que l'attitude du gouvernement français, l'attitude de beaucoup de gouvernements occidentaux, a été quand même d'une grande passivité.
Là, oui, c'est délicat, parce que comment peser sur un pays de 88 millions d'habitants, pays puissant, que ce soit par son armée, ses services de renseignement, un pays qui dispose de pétrole, pays chiite, qui est un contrepoids à l'Arabie Saoudite. C'est un vrai pivot, l'Iran, qui n'est pas facile à manœuvrer comme on peut le faire avec des petits pays comme on a pu le faire par le passé.
C'est très difficile et on voit bien que c'est un grand échec. C'est-à-dire que depuis la fin des années 70, les Mollahs sont installés en Iran, ils gouvernent mal, c'est n'importe quoi, on le voit très bien, à la fois la politique étrangère, enfin c'est une politique d'assassinat, faut dire, ils vont assassiner ici ou là, partout, enfin c'est un régime absolument répugnant. Oui. Et ce régime tient, malgré tout, il tient parce que de temps en temps, Poutine s'en sert, de temps en temps, certains Américains pensent, tiens, on pourrait peut-être les utiliser pour ceci, pour cela. Mais c'est sûr que c'est un problème, c'est une sorte d'aberration. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est sûr que ces jours sont comptés. Ces jours sont comptés parce que on voit à travers cet événement, parce qu'il y a plus de 90 morts, peut-être 80, on dit 95, ce sera peut-être plus à l'arrivée. Mais l'opposition a montré quand même qu'elle pouvait exister, quoi.
Oui.
Hein, apparemment, c'est un attentat commis avec des moyens assez artisanaux. Mais enfin, bon, le résultat est là. Et bon, c'est un attentat aussi qui a sans doute frappé des autorités, puisque c'était à l'occasion de
la commémoration
de la mort du général. Voilà, c'est ça exactement.
Alors, vous revenez aussi ce matin sur l'affaire Gérard Depardieu, Franz-Olivier Gisbert, cette bataille, tribune contre tribune, soutien à l'acteur, ou plutôt défense de son œuvre, contre-défense des victimes et de la prise en compte de leur parole. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Eh ben, c'est un grand spectacle. D'abord, c'est une guerre des pétitions. Un conflit de génération, une querelle des anciens et des modernes, des bons et des méchants, des laxistes et des vertueux, avec des tas de rebondissements. Quand vous avez les pétitionnaires qui se reprennent, mais c'est comique d'ailleurs. Vous avez vu Patrice Lecomte, Jacques Weber, Pierre Richard, Carole Bouquet, ils n'auraient pas eu des pressions des fois là, pour retirer leur signature. Bon, ce qui montre très bien que...
Des pressions de qui
De leur producteur, bien sûr. Ah bah oui, parce que peut-être que c'est pas très bon pour leur carrière. puisque
on voit très bien à celui qui s'en souffre,
Il y a un mouvement, on voit très bien qui est plutôt majoritaire contre Depardieu. C'est d'ailleurs dans la foulée de ce qu'on appelle le mouvement wokiste. Et puis il y a toute la nouvelle génération des acteurs qui voudraient aussi, disons, tourner la page Depardieu. Ça, c'est intéressant aussi de ce point de vue. Et donc c'est un feuilleton qu'en dit long sur notre époque, le mal-être qui la ronge sur fond de wokisme, et puis la fureur de l'effacement. Parce que Depardieu, il a dit beaucoup de bêtises dans sa vie. Hein, bon, c'était l'ami de tous les dictateurs, à commencer par les plus répugnants, là, comme Poutine, par exemple. Et il a aussi commis beaucoup de gestes déplacés, ça, on le sait. Il est accusé de toutes sortes de crimes. Mais, je sais pas, moi, je me dis, est-ce que c'est une raison, quand même, comme l'a très bien dit le dessinateur humoristique Xavier Gorce, de dégréviniser, c'est-à-dire de retirer sa statue du musée Grévin, de défrance télévisionniser, hein, j'ai du mal à le dire, c'est-à-dire d'arrêter de passer à la télévision les films où il joue. Non, mais vous rendez compte? Vous rendez compte de ça? On dit, attendez, il y a beaucoup de gens, il faudrait arrêter de jouer. Et puis, beaucoup d'auteurs, il faudrait aussi arrêter de lire. Bon, et puis encore de délégionneuriser. J'ai du mal
retirer
à dire
les
ça
légions
aussi.
D'honneur.
Autrement dit, vous n'essayez pas de le dire.
Légions d'honneuriser.
Ah, bravo. Autrement dit, lui retirer
faut pas me défier, moi.
Ses décorations. Bon, et je veux dire, c'est une déconstruction générale qui doit être effectuée, on a l'impression, de toute urgence avant même que la justice s'en mêle. Et je trouve que ça en dit beaucoup, je le répète, sur l'époque, c'est-à-dire avec, regardez tous ces inquisiteurs, ces bonnes âmes du camp du bien, qui veulent faire la loi, qui s'affairent pour excommunier, exécuter, se répètent de notre GG national. Certains, les professionnels de la vertu outragée, d'ailleurs, me font penser à la chienne, vous savez, du poème de Baudelaire, La Charogne, grand poème. Vous vous souvenez de la fin? Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Bon, alors maintenant, la question est évidemment à qui le tour? Vous me direz, je dis ça pour une partie de l'extrême gauche qui est partie en guerre contre Gérard Depardieu. Je voudrais lui rappeler ce qu'avait écrit Jean-Paul Sartre. Il y avait un énorme conflit avec la cause du peuple. Vous savez, à propos de l'affaire du notaire de Bruyères-en-Artois. Et Sartre avait écrit, c'est très intéressant, tout accusé est tenu pour innocent jusqu'à ce qu'il ait été reconnu coupable, et c'est le principe de notre justice, et ce principe est bien sûr mis en avant par la justice bourgeoise, qui d'ailleurs le respecte peu. Il n'en est pas moins vrai qu'une conquête populaire de la Révolution française. Une justice populaire ne doit pas l'abandonner, mais le redresser et se l'approprier. Voilà. Bon, ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui devrait faire réfléchir. Mais bon, on va arrêter de parler de ça.
On a cinq secondes, on est déjà en retard pour parler d'un livre avec lequel vous êtes rentré.
On va se donner du bonheur. Oui, Sylvain Tesson, avec les faits, c'est aux éditions de l'Équateur. Ça sort le 10 janvier. C'est absolument génial. Si vous aimez, disons la Bretagne, l'Irlande, la Grande-Bretagne, enfin tous les pays celles, Saint-Malo, Crozon, Aran, Dingle, enfin ça réveille des choses. Et Sylvain Tesson,
ça sort donc dans
quelques
jours.
Je vous conseille ce livre magique sur le merveilleux. Hein. Il court derrière les fées sur son bateau. Elles existaient puisque le soleil se lève chaque matin sur la mer. Elles existaient quand on cheminait vers elles.
Vous êtes en train de dire la fin là, je vous arrête elles tout de suite parce que là vous êtes en train de nous spoiler, ça suffit. Stop.
Elles existaient quand on travaillait à les faire apparaître.
Bon, voilà. Ça a l'air splendide, c'est donc le dernier livre de Sylvain Tesson. Merci beaucoup François-Olivier Gisbert et je vous dis à jeudi prochain.
À jeudi prochain.
À très vite, à tout de suite pour